Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Rodez et CFM Villefranche de Rouergue. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de George Stubbs, un peintre animalier, graveur et dessinateur anglais né à Liverpool en 1774 et décédé à Londres en 1806. Il fit paraître un traité sur l'anatomie du cheval entre 1756 et 1760 et devint le peintre animalier le plus célèbre de son époque.
Lors d'une précédente émission, nous avons évoqué la mode et l'univers du cheval. Et nous vous avons parlé des créations de la styliste Stella McCartney. Parmi ces dernières, une série de vêtements inspirés par une toile de George Stubbs. Cela nous a donné envie aujourd'hui d'évoquer ce peintre anglais, admiré dans le monde entier pour la beauté de ses chevaux.
Alors vous êtes sur CFM et vous écoutez les messagers du cheval.
Alors s'il y a bien un tableau de Stubbs auquel on pense tout de suite, Michel, c'est Whistle Jacket. Peint en 1762, le tableau est aujourd'hui exposé dans les collections permanentes de la National Gallery à Londres. C'est un tableau immense, puisqu'il mesure 2,92 m sur 2,46 m et représente un cheval grandeur nature. Et ce qui fait sa qualité et son succès auprès du public, c'est qu'il s'agit d'un véritable portrait, à l'égal de ceux des femmes et des hommes. Donc, le portrait d'un cheval. On peut parler de portrait parce que le cheval est très expressif et parce qu'il apparaît en mouvement, puisqu'il se cabre. Ensuite, c'est aussi parce qu'il s'agit d'un cheval qui a existé. Et le tableau porte son nom. Donc, Whistle Jacket, c'est le nom de cet étalon. Alors, que sait-on de lui? D'abord, c'est un étalon alezan qui appartient au marquis de Rockingham. Charles Watson Wentworth, c'est son nom, est un des hommes les plus riches d'Angleterre et un des mécènes de Stubbs. Cet homme qui sera deux fois premier ministre de son pays possède la plus grande demeure d'Europe. Et l'on peut bien imaginer, Michel, que ces écuries ne déparaient pas, car elles abritaient en effet 200 chevaux. Whistle Jacket descend en ligne directe de Godolphin Arabian.
Le célébrissime.
Voilà, un des trois chevaux orientaux à l'origine des purs sangs anglais, dont nous vous avons également parlé dans une émission précédente. Et cela par son fils Mogul. Alors, notre Whistle Jacket a eu une carrière en course, puisqu'on l'a pu le voir à l'époque sur les hippodromes entre 1752 et 1759. Et quand Stubbs peint son portrait, cela fait 10 ans qu'il est étalon à Wentworth Woodhouse, dans le sud du Yorkshire. Et Rockingham attend sûrement beaucoup de sa production, car tous les aristocrates de son époque, bien sûr, adorent les courses et le jeu. Et comme tous les autres, c'est sa passion. Et il ne sera pas déçu, puisque Whistle Jacket engendra entre autres une jument qui s'appelle Laura, qui fut une très grande jument de course et qui elle-même engendra des étalons de très grande qualité.
Alors, tu t'attardes sur ce tableau, Virginie, je pense, parce que tu as une bonne raison de le faire.
Absolument, Michel, parce que ce tableau synthétise toute la vie et l'art de Stubbs. La raison pour laquelle l'aristocrate a choisi Stubbs, c'est parce que il est un homme passionné de science, hein, comme beaucoup d'aristocrates de cette époque. Et ce qui caractérise l'œuvre du peintre, c'est sa connaissance de l'anatomie et le réalisme de ses sujets. Il est très probable que Rockingham ait vu le livre que Stubbs a réalisé, que tu as mentionné, Michel, qui est constitué donc de gravures anatomiques. En tout cas, c'est certainement grâce à ce livre que les riches Anglais lui commandèrent autant de tableaux.
Alors que sait-on sur ce peintre en fait?
Mais un peu
Est-ce que
chose.
C'est pas un peu mystérieux certaines
oui,
fois?
Oui, bien sûr, on est obligé de faire beaucoup de suppositions car c'est un peintre qui n'a laissé ni journal intime ni correspondance. À la fin de sa vie, il a dicté ses mémoires, mais il était déjà un peu âgé, il a un peu embelli son histoire, donc elles ne sont pas très fiables. Aucun de ses dessins ne lui a survécu. Et tous ces carnets de croquis ont disparu. Alors peut-être ils réapparaîtront un jour, hein, lors d'une vente aux enchères, mais pour le moment, il n'y en a plus. Mais voilà ce qu'on sait. Comme tu l'as dit, il est né à Liverpool le 25 août 1724. Dès l'âge de 8 ans, il se passionne pour le dessin et l'anatomie. Un médecin lui donne des os, hein, qu'il se met à dessiner. À 21 ans, il s'installe à York comme portraitiste et commence à donner des leçons de dessin afin de gagner sa vie. Et son intérêt pour l'anatomie l'amène à illustrer un livre sur l'obstétrique. Comme c'est un homme qui est très curieux, il apprend tout seul l'art de la gravure. Et ça aussi, c'est un point qui est important à souligner, Michel, c'est que chaque fois que quelque chose l'intéresse, il l'étudie jusqu'à ce qu'il puisse maîtriser son sujet. C'est donc là la marque d'une volonté et d'une curiosité hors du commun. Et puis, comme tous les artistes de son époque, il se rend à Rome afin d'étudier la sculpture et l'architecture classique. Mais, contrairement à ses contemporains, il est revenu convaincu que ce n'est pas dans les études classiques qu'il fallait trouver l'inspiration, mais dans l'étude de la nature et de la forme humaine, ce qui est une position extrêmement radicale pour l'époque et qu'il est important de souligner parce qu'il a vraiment une attitude révolutionnaire.
Alors l'année 1756, c'est pour lui un tournant dans sa vie.
Oui, tout à fait, Michel, parce que il s'installe avec sa famille dans le Lincolnshire et il entreprend d'étudier l'anatomie, non des hommes, mais celle des chevaux, et ce, depuis les muscles jusqu'aux os. Alors, je t'épargnerai, Michel, ainsi qu'à nos auditeurs, la manière dont il s'y prenait pour préparer les cadavres des chevaux, les disséquer. Mais toujours est-il qu'au bout de 18 mois, il avait réalisé des dessins aussi précis que magnifiques. Nous sommes en 1758 et il décide alors de se rendre à Londres et de trouver des graveurs pour reproduire ses planches.
Un peu de musique maintenant, The Clash, London Calling.
Voilà à Londres, Stubbs, et donc à la recherche de graveurs pour reproduire ses planches. Mais personne n'est intéressé, car probablement il pensait que là, cela ne se vendrait pas. Qu'à cela ne tienne, Stubbs décide de le faire lui-même. Donc, sa démarche est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est propre à l'homme du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Car, en effet, son intention, en publiant un livre de gravure anatomique du cheval, est de partager ses connaissances, non seulement avec les vétérinaires, mais surtout avec les artistes.
Alors, pourquoi est-ce si important avec les chevaux en particulier ?
Peindre un portrait, on a quelqu'un qui est assis et qui ne bouge pas. Avec un cheval, c'est pas le cas. Les chevaux sont des modèles mobiles.
Oui, hein. Ils ne peuvent pas prendre la pose.
Ils ne vont pas prendre la pose très longtemps. Donc, pour pouvoir les peindre, il faut faire preuve de réalisme. Et ce réalisme, il faut qu'il se repose sur la connaissance de l'anatomie. Et c'est cette connaissance de l'anatomie, que ça, quand on voit Whistle Jacket, on ne peut pas se tromper, qui s'est donné au cheval cette étincelle qui l'anime, qui le rend vivant. Et donc, pour te dire, Michel, Whistle Jacket, le vrai, ne s'y est pas trompé d'ailleurs. Car, selon le biographe et l'ami de Stubbs, à la fin de la dernière séance de pose, le peintre a mis son tableau contre le mur de l'écurie afin, et là je cite, hein, d'en apprécier l'effet. Whistle Jacket, que tenait un palefrenier, aperçut sa propre image et la fixant du regard, tenta de l'attaquer furieux. Et Stubbs dut venir à la rescousse du pauvre palefrenier et ils parvinrent à éloigner les talons à coups de palette et de canne. Donc pour te dire à quel point ce réalisme dont fait preuve le portrait est tel, hein, et ça c'est quelque chose qu'on sait avec les chevaux, hein, quand un cheval se voit dans la glace, il pense voir un autre cheval.
Oui, oui, et un adversaire souvent.
Et souvent il l'attaque.
Oui.
Et là, voilà. Whistle Jacket s'est reconnu, ou en tout cas a vu un cheval suffisamment impressionnant pour l'attaquer.
Alors autre chose justement qui fait également toute l'originalité du tableau.
Oui, c'est son absence de fond, et ce qui était tout à fait choquant à l'époque. Alors certains d'ailleurs en ont profité pour avancer que le tableau était inachevé. Mais Stubbs a peint deux autres tableaux sans fond pour Rockingham, Jument et Poulain, et Whistle Jacket avec deux autres étalons et le groom Simon Cobb. Donc, si il a fait trois tableaux sans fond, cela prouve que le commanditaire Rockingham et le peintre ont pris la décision ensemble.
Voilà.
C'est pas un accident et c'est pas des tableaux inachevés.
D'accord. Alors, on sait que le peintre n'aimait pas trop les fonds, je crois.
Oui, par ailleurs, c'était une chose qui est avérée. Et comme cela se faisait souvent à l'époque, d'autres le faisaient pour lui. Parfois, c'est un désir du peintre qui s'adresse à un confrère. Parfois aussi, le commanditaire ou la personne qui achète le tableau est déçu et demande à d'autres peintres d'intervenir. Alors, on en a un exemple extrême, hein, avec un tableau qui s'appelle Hollyhock, du nom de l'étalon de Lord Bolingbroke, qui commanda ce tableau. Ensuite, celui-ci passa entre les mains d'un Français, Monsieur Monet, qui, trouvant le fond trop fade, le fit retoucher par deux peintres français célèbres, François Boucher et probablement Karl Vernet.
Bon, donc il a su choisir quand même de très bons.
Oui, dans ce cas. Alors, il faut savoir aussi, Michel, qu'à l'époque, on n'a pas la même révérence envers un tableau qui est pour nous considéré comme une œuvre d'art. Ceux-ci sont considérés comme des objets, hein, et on n'hésite pas à les couper s'ils ne rentrent pas, par exemple, au-dessus d'une porte ou d'une cheminée. D'où le fait que on n'hésite pas à les retoucher.
D'accord.
Alors, Stubbs a également expérimenté lorsqu'il peignit ce tableau qui s'appelle John et Sophia Munsters à cheval devant Colwick Hall, qui était la demeure de ce couple. Alors, sur le tableau, on peut voir le couple à cheval, un chien qui marche devant eux. Et en fait, cela exprime le goût du commanditaire, hein, puisque John Munsters adorait les chevaux et les chiens et qu'il possédait de nombreux chevaux de course. Seulement voilà, sa femme, elle, préférait la vie de cour et adorait poser pour les peintres. Ce qui a convaincu John Munsters que sa femme lui était infidèle. Aussi, à ce moment-là, il demande à Stubbs d'enlever sa femme du tableau.
Oh, c'est pas courtois.
Non. Et le peintre s'est vu contraint, du coup, d'enlever les deux cavaliers parce que ça n'avait plus de sens de laisser un cheval sans cavalier et derrière, le cavalier. Donc, du coup, il enlève les deux cavaliers et il rajoute un groom à la tête du premier cheval. Donc, le groom semble comme ça promener deux chevaux en tandem. Et finalement, le tableau retrouvera son aspect original en 1936 après restauration.
Alors, l'amour des chevaux et des chiens vaut également des commandes du prince de Galles. Hein.
Oui, les chevaux, les chiens, les courses, tout ça, c'est la passion des aristocrates. Du prince de Galles, du duc de Richmond, du duc d'Ancaster, de Lord Grosvenor et de nombreux gentlemen farmers qui vont tous demander à Stubbs de faire le portrait de leurs chevaux de course et de leurs étalons favoris. Il peindra notamment le célèbre Eclipse, hein, le cheval de course le plus célèbre de son époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le peindra pas dans l'effort de la course, mais plutôt après la course, le cheval fatigué avec son palefrenier. À nouveau, ce qui rend tellement moderne son travail.
Il y a un sujet aussi qui lui tient particulièrement à cœur et qui l'a inspiré tout au long de sa vie.
Oui, c'est la représentation du cheval qui se fait attaquer par un lion. Stubbs en peindra au moins 17 sur des supports très différents, que ce soit des huiles, des gravures ou des émaux. Alors, ce sujet lui a été probablement inspiré par les sculptures antiques qu'il a pu voir lors de son voyage à Rome, notamment au Capitole. Et en fonction des représentations, le cheval passe par plusieurs états. Alors, c'est d'abord le cheval effrayé qui découvre le lion. Ensuite, le cheval qui est attaqué par le lion ou qui est carrément dévoré par le lion. Pour ce faire, le peintre a étudié les lions en cage. Il y en avait à l'époque à la Tour de Londres et également dans la ménagerie de Lord Shelburne. Et à partir de ça, il a fait des tableaux plus ou moins dramatiques parce que le décor est là et qui sont en avance sur leur temps puisqu'ils ont un aspect très romantique. Alors en fonction des versions, il s'inspire du paysage de Creswell Crags qui est à la frontière du Nottinghamshire et du Derbyshire et qui est très reconnaissable par ses formations rocheuses ancrées. Et une de ces versions en particulier inspirera l'écrivain Horace Walpole qui écrira ce poème « Ton crayon Stubbs, nul rival ne craint, point de copie, la vie elle-même triomphe en ton dessin ».
Alors, tout au long de sa vie, George Stubbs publia des gravures individuelles.
Oui, tout à fait. C'est ça qui va l'aider à vivre. Et notamment, il relance à la fin des années 80 sa publication de son anatomie du cheval. Puis en 1795, il commence une étude comparative des anatomies de l'homme, du tigre et de la poule. Et qu'il chercha à faire publier en 1802, mais seulement une partie simple sera finira par être publié. Et notre peintre meurt à l'âge de 81 ans, qui est un âge plus que raisonnable pour l'époque, le 10 juillet 1806.
Voilà.
Donc il nous laisse de splendides tableaux dans les collections qui existent, dans les collections privées, dans les collections publiques, on en a au Louvre et naturellement en Angleterre. Et puis comme je me l'ai mentionné, il y a tout ce qui a disparu, hein, mais qu'on espère peut-être revoir un jour.
Alors, Virginie, je pense qu'il faut préciser que nous mettrons des reproductions des tableaux sur la page Facebook de l'émission.
Tout à fait, ce qui permettra à chers auditeurs de visualiser ces œuvres dont nous avons parlé.
Nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis, un cheval dans les studios de CFM Radio 107.9. L'animal est également présent sur CFN Villefranche de Rouers 90.2, les mercredis et les samedis à 10h. 10h. Un grand merci à toi, Virginie, de nous avoir fait découvrir ce peintre talentueux qu'est George Stubbs. Bonne fête, bonnes vacances à toutes et à tous, et à l'année prochaine.